foncièrement forestier. Première partie. Il s'agit de la 19e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières, le RAF. Face aux menaces croissantes qui pèsent sur nos forêts, comment les protéger des appétits industriels? Comment permettre à des acteurs locaux de s'investir à long terme dans la valorisation de cette ressource tout en respectant l'écosystème? En 2015, le RAF a décidé de travailler plus sérieusement sur la question de l'accès collectif au foncier forestier. Stagiaire au réseau, pendant 6 mois, Marjolaine Boitard a enquêté auprès d'une quinzaine de collectifs ayant acheté et géré des forêts. Fin novembre 2015, le RAF a organisé à Cluny un atelier de 3 jours sur ce sujet, qui a réuni une 60aine de participants venant de nombreuses régions françaises. Ils ont partagé leurs expériences, confronté leurs pratiques et ont cherché à construire ensemble des propositions innovantes. Dans ces 2 émissions, nous allons vous donner un aperçu des discussions menées à Cluny. Écoutons d'abord Marjolaine, dont l'enquête a été le point de départ de ses réflexions.
Donc moi, du milieu paysan, en fait, au début, ça ne m'intéressait pas trop, la forêt. Je ne voyais pas le lien. Et puis, en fait, le RAF avait l'air très intéressant. Donc, je me suis renseignée un peu sur la forêt, sur ce qui se passait. Et j'ai vu qu'il y avait des liens, en fait, très forts. Que le virage très industriel qu'a pris l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale était en train de se prendre en forêt, mais avec une force capitaliste qui est beaucoup plus importante en fait. Il y a des moyens financiers, des moyens industriels et de machines, mais qui ont 40 ans de plus, quoi. Donc le virage, il se prend à une vitesse beaucoup plus rapide. Et avec des impacts qui sont beaucoup plus forts, sauf que c'est sur un biotope et un milieu qui est beaucoup plus fragile qu'un sol agricole. Donc j'ai vu d'abord ce lien-là entre paysans et forêt. Et donc l'idée, c'était de pouvoir sortir la forêt de la spéculation foncière et de la surexploitation par le biais d'achats collectifs. Mais alors, les achats collectifs, en fait, il y en a déjà plein. Il y a déjà des banques qui sont des sociétés d'investissement et qui proposent des portefeuilles financiers en forêt. Donc bah oui, la propriété collective en forêt, elle existe déjà, mais nous, on parle d'une autre propriété collective, une propriété collective, en fait, de personnes qui ont envie de s'investir en forêt, qui sont intéressées par cette thématique, et qui ont aussi envie d'avoir une autre gestion et d'autres usages, en fait, de la forêt, que ça soit pas une forêt qui soit destinée à une industrie de masse pour produire du bois juste en quantité et qui soit délivré en Chine ou juste en plaquettes ou en meubles Ikea, quoi. L'idée, c'est de pouvoir avoir une économie circulaire locales, territorialisées, et qui servent aussi bien à la forêt qu'aux personnes qui travaillent dans cette forêt, et qu'aux personnes qui ont envie aussi d'avoir de la ressource bois, des beaux meubles ou du bois de chauffage qui ne vient pas d'une coupe rase, en fait.
Philippe Cassiabu a été pendant plusieurs années le directeur de la foncière Terre de Liens, qui cherche à permettre l'accès collectif aux fonciers agricoles.
Moi, je suis finalement assez ému de cette aventure parce que c'est à la fois exaltant et émouvant. C'est tellement proche de l'aventure Terre de Liens que je ne comprends pas. Enfin, c'est une évidence, en fait, ce qu'on est en train de faire là. Ça devait arriver, quoi. Il suffisait qu'il y ait le groupe de gens motivés, qui maturent le truc pendant quelques rencontres. Et oui, ben, l'accès collectif aux fonciers forestiers, c'est strictement le même enjeu que celui de l'accès collectif aux fonciers agricoles que traite Terre de Liens. Donc j'ai beaucoup de plaisir à assister à cette naissance, en fait. Beaucoup, beaucoup de plaisir. La terre est une ressource vitale qui se raréfie, dont tout le monde a besoin, et la forêt, c'est pareil. Et donc, on a bien une ressource qui est plus qu'une ressource, d'ailleurs, qui est bien autre chose. C'est dans la forêt, il y a une dimension en plus que j'ai moins de facilité à trouver dans la terre, c'est que la forêt, elle a une dimension sacrée. À peu près tous les lieux sacrés dans le monde entier, c'est dans une forêt ou au bord d'une forêt. Et donc, il y a une dimension en plus d'impératif de gérer cette forêt de façon intelligente, durable, humaine, sensible, encore plus que la terre agricole. Et donc, cette forêt, il va bien falloir trouver des façons de la gérer.
Mais il y a aussi le rythme, le temps long. Avec une forêt, c'est aussi quelque chose de particulier. On peut bousiller des terres agricoles, c'est clair, hein, avec des mauvaises habitudes, hein, façon de faire. Mais ça peut être extrêmement brutal, la destruction d'une forêt. Hein, quelques coups de tronçonneuse ou d'abatteuse, c'est vite fait. Mais la vision d'autre, ça nécessite vraiment une sorte de dépasser les générations.
En fait, j'ai envie de dire que c'est quand même la même nature de risque. À échelle humaine, oui, ça fait une grosse différence. Mais à l'échelle d'un cycle de vie de la planète, c'est pareil. On a strictement, finalement, la même problématique. Soit on utilise bien sa parcelle pendant un an pour faire du blé, soit on utilise bien sa parcelle pendant 100 ans pour faire de la forêt. Mais la nature même du problème est la même. En revanche, puisqu'on n'est encore que des hommes, et qu'on meurt encore à 80 ans, l'outillage, il doit être différent. C'est l'essentiel de la différence entre Terre de Liens et le RAF, là, aujourd'hui, elle vient dans un outillage des règles qui doivent être différentes à cause de ce pas de temps. Et puis, un environnement socio-économique n'est pas tout à fait le même. Mais oui, l'outillage juridico-structurel, mental et de gouvernance doit intégrer le fait qu'il faut que ça dure longtemps.
À Cluny, nous avons rapidement compris que nous étions en train de nous embarquer dans une aventure dans laquelle il y aura une grande part d'invention et d'imagination. Comment créer une nouvelle relation aux forêts en les considérant comme un bien commun? Après tout, leur gestion affecte toute la population de la région concernée et même toute la planète, au vu des multiples services rendus par les forêts. Comment trouver ou développer des statuts de propriété qui reflètent cet intérêt collectif? Écoutons Sylvie Marguerite Ducret, juriste spécialisée dans les questions forestières.
Moi, j'ai une expérience assez longue dans un établissement public qui est l'Office national des forêts. J'ai passé 25 ans dans ce service et puis avec la connaissance donc, de la gestion de ces forêts publiques dans un cadre assez précis, finalement, un domaine délimité. Et puis, depuis 5 ans, je fais l'expérience de travailler au service de forestiers qui sont dans un autre domaine. Et aujourd'hui, je rencontre des gens, je dirais, c'est un troisième monde que je ne connaissais pas, que je découvre, et avec un grand étonnement et aussi beaucoup de plaisir, parce que je suis en train de voir, à mon sens, comme ça, de voir naître une espèce de conscience nouvelle de ce qu'il faut prendre en considération par rapport à nos forêts. Et effectivement, je retiens quelque chose qui a été dit pendant cette journée, puisque je suis juriste, que la forêt ne s'arrêtait pas entre le bien public ou le bien privé, ou la définition de la propriété, à qui appartient la forêt et pour en faire quoi. Mais là, il y a un élan qui va vers justement l'idée du commun. C'est-à-dire qu'au-delà de la propriété privée ou de la propriété publique, même si on sait que les forêts publiques sont finalement de la propriété privée des personnes publiques, des collectivités ou de l'État, donc on n'a qu'une forêt qui est appropriée de manière privative au niveau général, eh bien là, ce qui nous est proposé, c'est de réfléchir en se positionnant à l'extérieur avec un recul par rapport à l'existant, par rapport à cette existence de forêt privée, forêt publique, gérée dans un cadre, avec un code forestier, avec une politique forestière, avec des stratégies territoriales d'aménagement, etc. Ici, je rencontre un groupe de personnes qui essayent d'imaginer le meilleur pour la forêt et pour les humains, et de réfléchir en se donnant la liberté de voir les choses sans se laisser incorporer dans le cadre existant, y compris de la législation forestière, même si la législation forestière a un long historique. Hein, c'est une des législations les plus anciennes de France. Donc c'est un droit ancestral avec des valeurs, avec des choses qui ont parcouru le temps, qui ont parcouru les siècles. On a aujourd'hui une législation forestière qui est intéressante. Elle n'est pas suffisante aujourd'hui pour préserver nos forêts et surtout pour les pérenniser avec ce que tout le monde a au moins entendu parler aujourd'hui, qui est le développement durable et la gestion durable des ressources naturelles. Donc cette approche qui se permet d'être libre dans la pensée, dans la recherche de ce qui pourrait être fait pour le meilleur, je trouve ça très, très enthousiasmant, très joyeux et plein d'espoir finalement. Moi qui viens d'un établissement public où il y a quand même eu beaucoup de... Il y a encore beaucoup de difficultés, de souffrances. J'en suis sortie, je découvre un autre monde aussi en forêt privée, mais là, c'est un palier supplémentaire qui est proposé de franchir. Alors, ça en est qu'à un début. Hein. Je vois que c'est des balbutiements, mais à mon avis, ils sont très prometteurs. Parce que c'est le début d'une naissance, d'une conscience de ce qu'est la forêt, de ce qu'est véritablement la forêt, et qu'on a là, dans les mains, un milieu qu'on n'a pas le droit de négliger, et qu'on n'a pas le droit d'exploiter de manière inconsidérée et non raisonnable, même quand on l'enrobe parfois de certifications gestion durable. Il faut voir derrière, dans la réalité, ce qui est fait. Donc ça repose quand même des questions essentielles, et essentielles, fondamentales, et qui reviennent à la base. Et c'est non seulement un milieu de ressources naturelles et renouvelables, mais c'est plus que ça. On doit faire très attention à ce qu'on fait dans cette forêt.
Écoutons maintenant Gaëtan Dubus, ingénieur forestier et initiateur du RAF, qui brosse un tableau de la situation actuelle de la propriété forestière en France.
Donc la forêt française, qui fait presque 16 millions d'hectares, hein, 28% du territoire, est partagée entre un quart de forêt publique, c'est-à-dire de forêt domaniale, hein, appartenant à l'État, et puis de forêt de collectivité. Des communes et un peu de conseils généraux, CCAS, etc. Et trois quarts de forêt privée. Donc la forêt française est majoritairement privée. Aujourd'hui, sur ces trois quarts, on peut dire qu'il y a des personnes morales, des personnes physiques, des agriculteurs en particulier, et puis des personnes qui ont soit hérité d'une forêt familiale, soit qui ont investi dans la forêt par choix. Et ce qui, ces derniers temps, est quand même marquant, on peut dire, c'est la présence des personnes morales, donc des groupements forestiers et des investisseurs institutionnels, hein, qui sont des banques, des sociétés d'assurance, la Caisse des dépôts et consignations, dans cette propriété privée. Donc à titre d'exemple, on peut dire qu'en 2015, sur les 1% de forêts privées qui ont été mises en vente, hein, puisque c'est à peu près 1% par an, 50% des surfaces ont été achetées par ces personnes morales que je viens de citer, et que sur les grosses forêts, c'est-à-dire de plus de 100 hectares, c'est 2/3 de la surface qui a été acquise par des personnes morales.
Je crois que c'est quand même, ça chiffre en millions plutôt que de milliers de propriétaires, si on compte tous les propriétaires, y compris avec, parce qu'il y en a beaucoup qui ont même moins qu'un hectare.
C'est ça, oui. La grosse majorité des propriétaires Il y a 3,5 millions de propriétaires en France. La grosse majorité a moins d'un hectare. Donc c'est des toutes petites surfaces qui sont parfois complètement oubliées. Hein, parce qu'au fur et à mesure des héritages, évidemment, la propriété se divise et se redivise encore. Donc on se retrouve à habiter à Paris, à Lyon, à Lille, à Marseille. Et puis avec 0,3, 0,5, un hectare de forêt dont on ne sait même pas où elle est. Donc ça, c'est un gros problème. Alors est-ce que c'est un problème? Ça se discute. Mais c'est une réalité de la forêt française, c'est le morcellement, qui est extrêmement fort. Par contre, à l'autre bout de la pyramide, on va dire, hein, il y a cette base-là de 2 millions de propriétaires, très 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 petits propriétaires. Et puis plus on monte en surface, en taille des propriétés, moins on a d'acteurs. Et on se retrouve avec, pour donner un chiffre à la louche, à peu près 2% des propriétaires qui possèdent 50% de la surface forestière privée et 10% qui possèdent 80%. Voilà. Donc ça veut dire qu'à côté de ce morcellement très fort, on a aussi une concentration, et la place des personnes morales que j'ai citées tout à l'heure participe beaucoup à cet effet-là, concentration des grosses forêts dans un nombre de propriétaires, hein, et donc d'acteurs de plus en plus faibles. Alors, de plus en plus concentré, c'est un sentiment que j'ai pas les chiffres aujourd'hui pour le démontrer. Ce qui est sûr, absolument sûr, c'est que une grosse partie de la surface, hein, les 80% sont possédés par 10%, donc par un petit nombre de propriétaires. Ça, c'est une réalité foncière. Et puis, que, en termes d'influence aussi sur les politiques forestières, évidemment, c'est comme dans le milieu agricole, hein, avec les syndicats, ce sont les gros propriétaires qui ont le plus de pouvoir. Hein, et qui évidemment aussi s'investissent le plus dans les structures de gestion de la forêt privée, qui sont principalement les coopératives et les experts forestiers, et donc qui ont aussi une voix, par le biais des syndicats, des coopératives, des experts, dans l'évolution des politiques forestières et dans l'orientation de la gestion des forêts privées.
Et aussi la filière, et ils sont assez liés à aussi des scieries, etc.
Voilà, mais forcément, puisque donc les gros acteurs de la gestion forestière privée en ce moment, c'est les coopératives, hein, l'Union des coopératives et la CDC, Caisse des dépôts et consignations, qui a créé une société forestière, hein, qui gère de grandes surfaces en France, et que si on prend l'exemple des coopératives, elles ont pris des parts importantes dans les structures de valorisation, de transformation du bois, et donc elles agissent aussi dans la filière, pas seulement au niveau de la propriété et de la production du bois, mais dans la filière, dans toute la transformation, dans les débouchés, dans le négoce, dans l'export de bois, etc.
On peut aussi dire que la forêt est devenue de plus en plus un valeur refuge, non ? Pour les gens qui ont des capitaux. C'est quelque chose qui est considéré comme un investissement assez stable et sûr pour l'avenir.
Ben, c'est de l'économie matérielle, et on sait très bien que le foncier, c'est pareil dans le monde agricole, devient un peu une valeur sûre, puisque les terres augmentent de valeur régulièrement. Non seulement parce que c'est du solide et parce que c'est pas soumis aux aléas boursiers et aux crashs, etc., mais aussi parce que les matières premières risquent de manquer. En matière agricole, on joue avec le prix des céréales, etc. Et le bois aujourd'hui, avec l'énergie, avec la demande de nature, hein, avec conscience écologique et problèmes climatiques, font qu'on demande de la nature. On demande aux forêts de compenser tous les méfaits de la société, hein, par les compensations carbone, compensations biodiversité, on pourrait expliquer. Et ça fait un jeu spéculatif, si vous voulez, qui s'ajoute à l'intérêt d'acheter du dur, d'acheter du foncier. Avant, la mode était à la pierre, on achetait des bâtiments, c'est du solide, maintenant on achète de la terre. Et la forêt, si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez « investissement forestier », « acheter une forêt », vous avez énormément d'articles là-dessus, même des revues Capital, etc., qui vont vous dire « oui, c'est un bon investissement, acheter de la forêt ».
Ce que j'aimerais maintenant comprendre, c'est que le marché de la forêt, c'est très opaque, c'est compliqué, c'est difficile à savoir. Semble-t-il, des personnes qu'on peut connaître qui cherchent à acheter les forêts parce qu'ils voudraient faire quelque chose d'intéressant avec les forêts, un peu dans le sens du réseau pour les alternatives forestières, très souvent, c'est très difficile.
Alors, opaque, oui et non, parce que si vous avez une dizaine, voire si on prend tous les acteurs, une quinzaine d'agences immobilières ou d'acteurs immobiliers qui sont présents sur Internet, hein, vous tapez « acheter une forêt », vous en avez. Donc vous pouvez, sur Internet, trouver, ou dans les revues spécialisées, trouver des forêts à vendre. Après, c'est pas pour ça que vous trouverez l'affaire qui vous va, la forêt qui vous va. C'est pas pour ça non plus qu'elle sera facile à acheter, puisque ben, encore plus que quand vous voulez acheter une maison, les forêts intéressantes partent très 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 vite et passent même pas parfois par annonce et encore moins sur Internet, quoi. Voilà, donc quand une personne ou un collectif souhaite acheter une forêt, il faut être extrêmement vigilant et pouvoir réagir très 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 vite. Ça, c'est le problème, parce que l'information passe parfois de bouche à oreille simplement. Elle passe parfois par nulle part, par des créneaux qui échappent complètement aux personnes qui ne sont pas intégrées dans la filière et dans les arcanes des bureaux parisiens, on va dire. Et donc, acheter une forêt quand on débarque dans ce milieu-là, c'est effectivement très, très, très difficile.
Il n'y a aucune structure comme la SAFER, par exemple, qui peut, même si on peut critiquer la SAFER, mais il y a quand même un certain phénomène de rôle public des ventes des terres agricoles.
Alors, le droit de préemption que les SAFER ont sur les biens agricoles et les biens mixtes, c'est-à-dire où il y a de la forêt et de l'agriculture, ne s'étend pas aujourd'hui juridiquement à la forêt. Donc, les SAFER essayent d'intervenir pour avoir simplement récupéré les 5% qui normalement reviennent à l'État en cas de mutation d'un bien à titre onéreux. Donc, ça les intéresse, mais juridiquement, elles ne peuvent pas forcer leur intervention. Donc, il n'y a pas de droit de préemption sur les biens forestiers pur. Alors ça a une conséquence effectivement forte, c'est que il n'y a pas de notification notariale. On n'est pas obligé, quand on vend une forêt, d'en informer la SAFER. Il n'y a pas une publicité qui donne un peu de temps aux acheteurs autres, hein, alternatifs, d'intervenir. Et encore moins, comme dans le champ agricole, si quelqu'un a un projet d'installation sur une forêt, de se faire valoir comme prioritaire sur un acheteur qui voudrait juste diversifier son portefeuille. Ça n'existe pas en forêt.
En fait, juste en mettant un petit peu le pied dans l'engrenage de, en fait, c'est quoi la propriété et c'est quoi l'achat ?
Marjolaine Boitard.
On peut aussi se rendre compte qu'on peut utiliser la propriété pour en sortir, quoi, pour faire des structures de propriété qui sont un petit peu à contre-courant de la propriété individuelle qu'on nous impose en France. Et moi, c'est ça qui m'intéresse pas mal, en fait. Finalement, la propriété, ça peut être aussi comment on accède à la forêt pour avoir des usages et de l'activité, comment on peut mettre en place des contrats de travail, possiblement, ou des contrats d'usage. Mais toujours en comparaison avec le milieu rural et paysan, il y a un bail rural qui existe pour les terres agricoles. Et alors que dans la forêt, pour les personnes qui sont plutôt bûcherons ou débardeurs, il n'y a que des contrats de chantier, finalement, qui sont très courts, plutôt précaires. Les contrats de longue durée, ils sont plutôt pour des gestionnaires qui ont des contrats de gestion sur une gestion de forêt, donc qui sera sur du plus long terme. Et donc, finalement, l'accès au foncier, ça peut être pas seulement grâce à la propriété, qu'il soit collective ou individuelle, mais l'accès au foncier forestier peut aussi se faire par un contrat de travail de longue durée. Et là, en fait, tout a été inventé. Il n'y a rien aujourd'hui.
Tu as pas mal visité ou discuté avec des gens qui ont déjà tenté des expériences d'achat collectif, parce qu'il y a quand même des formules qui existent déjà, hein, groupement forestier, etc.
Je suis allée voir j'ai enquêté 15 groupements qui existent déjà. Donc des groupements forestiers, des sociétés civiles individuelles et commerciales, des sociétés... Enfin, plein de sociétés commerciales, individuelles, hein, je ne vais pas faire la liste là. Mais l'idée, c'était d'avoir un éventail de statuts juridiques, de structures juridiques différentes, mais qui soient toujours dans une éthique un petit peu de la charte du RAF, quoi. Mais voilà, les questions que j'ai posées, c'était beaucoup sur la gouvernance, comment sont décidés, en fait, les usages qui vont être faits en forêt. Est-ce qu'il y aura du sylvopastoralisme? Est-ce qu'il y aura de la cueillette? Est-ce qu'il y aura de la chasse? Est-ce que lorsqu'on sort du bois, on le sort comment? Est-ce qu'on utilise des machines et des abatteuses, des chevaux? Le bois, c'est du bois d'œuvre ou du bois de chauffage, et c'est pour qui? Est-ce qu'on l'envoie en Chine parce que ça va payer plus? Ou est-ce qu'on s'en sert pour reconstruire la maison à côté? Donc c'était vraiment un questionnaire où j'ai cuisiné les gens pendant 4 heures, quoi, surtout. Finalement, j'ai appris par les réponses que les gens me faisaient de leur vision de la forêt, qui était en fait très 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 variée pour tout le monde, quoi, de leur rapport à la ressource et ce qu'ils pouvaient en faire. Donc finalement, c'est pas tant la propriété collective qui va amener un certain usage, mais c'est vraiment une vision, une pratique que nous, on porte déjà à la base, qui va donner une influence, un objectif tout autre à la propriété collective, quoi.
Parce que dans la réunion, on a dit que propriété collective, ça ne va pas du tout forcément dire justement gestion collective ou gouvernance ou prise de décision collective. Et donc, par exemple, les endroits que tu as visités ou avec qui tu as parlé, est-ce qu'on peut dire que tout était une forme de gestion, de prise de décision collective, ou est-ce que parfois c'était un achat collectif et qu'on déléguer un peu toute la gestion à telle ou telle personne qui était considérée comme un peu, voilà, plus douée, plus expert, etc. Et les autres, bon, ils laissaient faire, en gros.
Ça se retrouve beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de... dans certains groupements forestiers, là, deux ou trois en l'occurrence, où effectivement il y a donc de l'achat participatif par plusieurs personnes, ça peut être une dizaine comme plusieurs centaines de personnes qui investissent dans des groupements forestiers. Mais finalement, les décisions de qu'est-ce qui va être fait en forêt est quand même gardée par un comité scientifique ou les gérants du groupement forestier qui vont aussi déléguer un petit peu à un gestionnaire forestier. Dans le cadre des groupements forestiers, c'est jamais arrivé qu'un bûcheron, par exemple, prenne les décisions qu'un gestionnaire pourrait prendre sur le marquage, par exemple. Ce genre de décision beaucoup plus partagée entre bûcherons et gestionnaires, ça s'est plutôt retrouvé dans des lieux où en fait la forêt était aussi un lieu de vie, où les personnes qui habitaient, c'était plutôt sur des collectifs paysans en fait, qui avaient des terres agricoles et aussi de la forêt. Et la forêt était vue dans son ensemble en fait, et comme un milieu attenant au reste du système paysan. Donc c'était pour du sylvopastoralisme, c'était pour du bois de chauffage, pour du bois d'œuvre, mais toujours pour une économie très locale, si ce n'est que pour la ferme ou un petit peu aux alentours. Et donc là, les décisions étaient très partagées, en fait, entre les personnes qui vivent sur le lieu, parce que elles sont directement impactées, et les personnes qui vont travailler en forêt sont aussi les personnes, en fait, qui travaillent sur le lieu. Il y a tout qui est à faire, tout qui est à construire, tout qui est à imaginer, en fait, sur les modes d'accès, de travail de longue durée en forêt. Là, mon travail que je vais faire, c'est plutôt récolter l'imaginaire, et de voir qu'est-ce qui est possible juridiquement en fait, de faire avec cet imaginaire-là. Parce que comme il y a tout qui est à construire, finalement, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas trop de base. C'est compliqué, mais en même temps, je trouve que c'est excitant et encourageant, quoi. C'est motivant. Et j'ai l'impression que pour l'instant, les personnes qui travaillent en forêt, quand je leur pose la question, ils ont du mal à imaginer de pouvoir avoir accès à une forêt sur du long terme, comme ça. C'est assez rare. On en croise quelques-uns au RAF. Mais pour la majorité, c'est difficile à y croire, quoi.
En fait, il y a beaucoup d'inventions, beaucoup de choses à imaginer, quoi, finalement, dans plein de domaines. Du juridique, en fait, ça demande beaucoup à toi, mais pas qu'à toi, parce que c'est quand même accompagné, dans le cadre du RAF, du réseau. Mais il y a le côté juridique, il y a les statuts, il y a aussi des aspects humains. Et donc, toutes ces manières de faire, de comprendre... Toute une profession, quelque part, comment ça fonctionne. Et en plus j'ai l'impression que ce n'est pas la seule profession comme ça, mais c'est une profession qui n'est pas très ouverte à être bousculée ou à avoir des nouvelles idées qui arrivent comme ça. Et c'est une profession qui est parfois assez fermée, la profession forestière, quoi.
La profession forestière, elle est, pour moi, la filière forêt-bois, de l'extérieur, de ce que j'en vois, je la trouve corporatiste au possible. Et c'est difficile d'y rentrer dedans. Moi, j'y rentre dedans par le biais du RAF. Et après, pour aller voir le reste de la filière bois, c'est assez compliqué. Et après, pour les personnes qui travaillent en forêt, plutôt comme des bûcherons ou des débardeurs, eux-mêmes, parfois, ils ont une image très dévalorisante, quoi. Eux-mêmes, ils vont se considérer comme des personnes plutôt bourrines ou pas très cultivées, qui ne savent pas bien faire. Et alors que ça peut être autre chose. On peut vraiment travailler en forêt... de manière à faire du travail de qualité et avoir une rémunération digne et être valorisé dans ce qu'on fait, en fait. Et déjà, ça, faut pouvoir se le dire, en fait, qu'on fait du beau boulot et qu'on pourra avoir accès à une forêt sur de long terme pour faire ce beau boulot-là, quoi.
C'est quelque part assez étonnant, un peu contradictoire, quoi, paradoxal, parce que j'ai quand même l'impression, même si c'est pas du tout un débat en France, les gens, ils savent pas grand-chose sur la forêt, mais en même temps, la forêt, c'est quelque chose, au fond, très aimé. Qui touchent les gens. Ils ne sont pas indifférents, forcément, s'ils voient des destructions de forêt. Je remarque ça avec les histoires de coupe rase. Beaucoup de gens réagissent à ça et tout ça. Et n'empêche, effectivement, il y a cette espèce de dévalorisation pas mal. Où, enfin, les gens, ils ne se sentent pas valorisés quand ils font un beau travail, justement, dans la forêt.
On a du mal à savoir c'est quoi, en fait, du beau travail en forêt. Parce que d'un côté, on a la forêt des Landes, où c'est normal d'avoir une abatteuse, d'avoir des arbres en ligne droite et d'avoir des coupes rases. Et puis d'un autre côté, quand on va dans une forêt mélangée et qu'on voit un bûcheron couper un arbre, ça fait bizarre. Donc il y a même cet imaginaire collectif de la forêt qui est parfois, je dirais pas erroné, c'est un imaginaire, donc chacun a le sien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une culture forestière en fait en France qui est à peu près inexistante. Bah déjà, enfin voilà. Quand j'en parle à mes amis que je travaille au réseau pour des alternatives forestières et tout ça, mais ils demandent, mais en fait la forêt, il y a un problème. Enfin, il n'y a pas de problème en forêt. Il y a une ignorance vraiment sur ce qui se fait dans la forêt en France, alors que ça couvre un tiers du territoire. Et on ne sait pas vraiment ce qui se fait bien ou ce qui se fait mal. Et finalement, c'est quand on voit une coupe rase à côté de chez soi, si encore faut qu'on habite en milieu rural, qu'on se dit, bah, peut-être un problème, quoi. Mais on ne sait pas trop vers qui se diriger pour avoir des réponses et de l'information et des alternatives.
On est quand même dans un état, dans une situation où le propriétaire a beaucoup de pouvoir.
Gaëtan Debus.
Et la loi, finalement, le contraint relativement peu aujourd'hui. On pourrait détailler tout ce qui contraint le propriétaire, mais c'est assez light. Donc aujourd'hui, un propriétaire oriente un peu sa gestion comme il le veut. Il signe ou pas un contrat de vente de bois, de travaux, etc. Donc il a quand même pas mal de pouvoir. Ça veut dire aussi qu'il a un pouvoir pour faire des choses absolument belles, magnifiques, etc., dans l'esprit du RAF, ou de ProSylva, ou d'autres associations qui militeraient pour une gestion douce, mais il a aussi le pouvoir de faire des catastrophes, de faire des destructions qui vont affecter le paysage, l'environnement, les habitants autour, la ressource locale pour les entreprises qui travaillent localement, voilà. Ce qui depuis toujours, fait énormément mal. Ce qui nous rassemble, c'est une des raisons du rassemblement, hein, du RAF, c'est ça. C'est de voir des choses qui ne nous plaisent pas et de dire, bon, il faut qu'on arrive à freiner ça. Il y a plusieurs actions, on peut essayer d'empêcher ça juridiquement, etc. C'est pas trop la vocation du RAF. La vocation du RAF, c'est de dire, on peut faire autrement, d'aider ceux qui font autrement, et il nous est paru que le foncier ait une dimension extrêmement forte, puisque certains propriétaires ne veulent pas faire autrement, voilà, et donc une bonne façon d'agir, c'est effectivement de favoriser l'achat de forêt, un achat militant, qui aille dans le sens des valeurs qu'on défend, voilà. Et on est absolument convaincu qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prêtes à le faire, soit parce qu'elles ont un petit peu d'économie, soit parce qu'elles vont tout faire pour arriver à mobiliser un peu d'économie et acheter des forêts. Et donc, il y a un problème aussi d'accès à l'information, de méthodologie, de savoir-faire, et le RAF veut se positionner là-dessus. Voilà, donc une première raison, c'est de protéger des forêts pour qu'elles soient traitées de manière douce, voire laissées à leur libre sort, parce que c'est important aussi de laisser des forêts en libre évolution. Et une deuxième raison, c'est aussi le constat que des entrepreneurs qui travaillent de manière très douce, très respectueuse, des artisans qui ont besoin du bois, des petites chaufferies communales, des projets sympathiques vraiment, aujourd'hui sont menacés par des gros acteurs, si vous voulez, qui mobilisent des quantités de bois énormes, qui sont des tubes digestifs de la forêt, quoi, des avaleuses de bois, et pour qui 100, 200, 500 mètres cubes, c'est absolument rien, qui vont tout avaler et qui laisseront peu de place, voire plus de place du tout à ces gens-là, ni pour le travail en forêt, ni pour le travail artisanal du bois.
Avec la très forte mécanisation, il faut dire, voilà. Aussi dans la forêt. Hein.
Voilà, bah oui, bien sûr, on est en train de suivre complètement l'évolution de l'agriculture depuis 30 ans. Donc on est en train de mécaniser, c'est 90% des bois résineux sont mécanisés, sont abattus de manière mécanique,
C'est-à-dire, parce que mécanique, pour certains, on pensait à une tronçonneuse. Mais non, oui. Là, on parle des appâteuses, des grosses machines qui entrent.
Oui. Non, la tronçonneuse, aujourd'hui, c'est l'outil artisanal en forêt. Il faut vraiment réaliser ça. Ce n'est plus la hache, c'est la tronçonneuse. C'est de l'artisanat. Aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus partout, c'est la batteuse. Donc, c'est une espèce de gros tracteur articulé, si vous voulez, avec une grosse pelle mécanique, si vous voulez, avec devant. À la place de la pelle, on va avoir une tête d'abattage. Donc, c'est une grosse tronçonneuse avec une pince qui attrape l'arbre, qui le coupe, et puis après, qui l'ébranche, qui le billonne en produits utiles pour l'industrie, quoi. Voilà, donc j'ai dit 90% à peu près des résineux, hein, des bois résineux sont abattus comme ça. Et en feuillus, ça augmente chaque année, on est à peu près à 20% en ce moment. Et dans des pays comme le Canada ou la Suède, c'est 95%, pas loin de 100% du volume total qui est abattu par abatteuse.
Ok, mais je pense que, évidemment, les choses sont bien complexes. Donc, par exemple, on a souvent entendu parler pendant cette réunion de l'idée d'achat collectif, de propriété collective, la forêt. Mais bon, propriété collective, ça peut être à la limite, comme tu dis, des personnes morales, mais qui ne sont pas du tout avec la même perspective que nous. Enfin, donc, il faut bien préciser ce qu'on pense là. Et on a aussi parlé du fait que propriété collective ne veut pas dire forcément gestion collective, ne veut pas dire forcément bonne gestion. Donc, il faut peut-être éclairer un peu ça.
Ben, sans porter de jugement, hein, si je prends la Caisse des dépôts et consignations, la société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, ça ne va pas l'intéresser pour ses clients, enfin pour le placement financier, ça ne va absolument pas l'intéresser d'aller acheter une parcelle à gauche, une parcelle à droite, ou même Groupama ou d'autres banques, si vous voulez, qui vont acheter des forêts pour leurs clients. Hein, si un client place 5 000 euros ou 10 000 euros chez eux, ils pourront acheter qu'un hectare ou deux. Donc, ils vont absolument pas gérer une forêt d'un hectare ou deux au milieu d'un massif dont ils n'ont pas la maîtrise. Donc, ils vont acheter une grosse forêt, hein, 50, 100, 200, 300 hectares, voire 1 000 hectares si elle arrive sur le marché, ils préféreront encore. Donc, forcément, c'est une forêt qui a été achetée grâce à l'économie d'un grand nombre d'actionnaires. Voilà. Donc, de facto, c'est une propriété collective. Sauf que ce sont des actionnaires qui ne vont jamais en forêt, qui savent à peine où est leur forêt et qui n'ont pas non plus une vision claire de la forêt et la gestion qu'ils veulent. Simplement, c'est un placement. Ils ont une garantie de rémunération de 3%, ils ont une garantie de reversement 8 ans après, etc. Donc, c'est une propriété collective de facto, sauf qu'il n'y a aucune relation ni entre les actionnaires d'une forêt donnée, ni entre ses actionnaires et la forêt elle-même. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec une propriété collective qui serait constituée pour acheter une forêt précise, dans un objectif précis, et par des gens qui ont choisi d'investir ensemble, et même, allons plus loin, de s'occuper de la forêt ensemble, de gérer la forêt ensemble. Alors, c'est deux niveaux différents, justement. Si je prends, par exemple, groupement forestier de sauvegarde des feuillus du Morvan, hein, qui est une très, très belle initiative, voilà. On peut encore prendre des parts là, dans cette initiative, dont l'objectif principal est d'acheter de la forêt feuillue dans le Morvan pour limiter le remplacement de ces forêts par des plantations en monoculture de Douglas, eh bien, la gestion est assumée par quelques personnes. Parce que la plupart des preneurs de parts de ce groupement n'habitent pas le territoire, n'y connaissent rien à la forêt, ils font ça par éthique.
Et confiance de loin.
Voilà, ils ont confiance parce que l'objectif et les statuts leur font confiance. Voilà, et les personnes sans doute aussi qui gèrent ça. Bon, voilà. Donc ça c'est un groupement forestier où les gens sont réunis par un objectif, mais ils se voient très peu, voire ils ne se voient pas entre eux. Et la gestion est portée par 2-3 personnes. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment de la gestion collective.
Mais en fait, c'était beaucoup une personne. Peut-être il y avait d'autres, mais il y avait surtout une, Lucienaise, qui a réagi très fortement, avec raison, par rapport à des choses qu'elle trouvait inacceptables. Mais ça venait beaucoup d'elle, quoi. Et ce que je trouve intéressant actuellement avec le réseau pour les alternatives forestières, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup de dynamiques locales qui sont... ont parti peut-être, disons, pas inspiré par le RAF, mais pas forcément. En fait, le réseau rencontre à droite à gauche maintenant des initiatives assez jeune, souvent, avec beaucoup d'énergie et d'envie. Et ça pourrait être la base d'initiatives territoriales, locales, pour essayer d'aller au-delà de simplement sensibiliser la population, mais un tout petit peu selon le modèle de Terre des Liens, mais bon, de dire aux gens, ben, on peut aller plus loin, on peut mettre un peu d'argent dans une genre, caisse commune, là, qu'on va créer avec un statut à créer, mais qui permet à vraiment acheter des forêts et de développer des activités, des formations et un tas de choses, quoi.
Oui, ben, c'est un peu, j'en discutais tout à l'heure avec Bois 07, hein, le collectif Bois 07.
En Ardèche.
En Ardèche, voilà. 07, et puis, puisque eux, bon, ils consomment quand même à peu près 300 mètres cubes de bois chaque année pour leurs artisans, avec une volonté très très claire de savoir d'où vient le bois et comment il a été sorti de la forêt. Et ils se retrouvent chaque année à devoir négocier le bout de gras avec le propriétaire, à ne pas savoir finalement est-ce que le propriétaire va accepter, à quel prix, comment, etc. Et donc ils ont le sentiment qu'il y a une forme de hiérarchie entre finalement le propriétaire décide et moi j'accepte ou j'accepte pas, une forme de précarité un peu pour eux, et puis aussi un manque de capacité d'orienter la gestion des forêts sur lesquelles ils travaillent à long terme. C'est-à-dire que toute la qualité de travail qu'ils vont faire en faisant une éclaircie une année X, eh bien, 5 ans après, si le propriétaire décide que le peuplement est en bout de course et qu'il faut le remplacer, eh bien, leur travail aura été annulé, quoi, quelque part. Donc ça peut être désespérant émotionnellement, indépendamment du fait qu'on ait été rémunéré correctement ou pas sur le chantier. Émotionnellement, ça peut être très dur. Donc, quand on a une démarche comme ça, on a envie d'aller jusqu'au bout, de se dire, les forêts dans lesquelles on travaille, on a la garantie qu'à très long terme, tout ce qu'on y met émotionnellement, pratiquement, ça va rester, quoi. Ça va rester. Donc ça veut dire avoir la garantie que notre travail, il n'est pas foutu, que pendant la durée de notre vie, on va dire, déjà, ça va, c'est garanti, quoi. On peut continuer à travailler sur cette forêt, ça ne va pas être foutu. Et puis même au-delà, c'est cette forêt, parce que la durée de vie des arbres et de la forêt dépasse largement la durée de vie des hommes, et encore plus notre carrière de 25, 30, 40 ans. Donc au-delà de notre travail, que deviendra la forêt? Et ça pose la question vraiment des statuts de propriété, puisqu'une propriété individuelle, quand elle passe dans la main de l'héritier, si l'héritier change complètement de vision, et qu'il a juste besoin d'argent, il la revend, ça peut être n'importe quoi, d'accord, ou il la rase, etc. Et donc tout le travail d'une génération, hein, 30, 40, 50 ans, qui peut être très beau, peut être anéanti en un coup. Donc il faudrait pouvoir avoir un statut et un cahier des charges, si vous voulez, de la gestion, qui dépasse largement la génération. D'où l'intérêt des personnes morales comme propriétaires. Hein. Quand j'ai démarré l'exposé en disant que la part des personnes morales augmente dans la propriété, c'est pas un mal. Seulement, quelle est l'intention, si vous voulez, avec laquelle on crée ces personnes morales? Qu'est-ce qui est inscrit dans les statuts? À quoi elles servent? La question, elle est là, d'abord.
Écoutons encore la juriste Sylvie Marguerite Ducré.
Le morcellement forestier que beaucoup nomment comme une anomalie ou une faiblesse de la forêt française, je me dis aujourd'hui que c'est peut-être une chance, ce morcellement. Déjà parce qu'il a permis de préserver une certaine biodiversité qui existe par le vieillissement de certaines forêts et par le fait qu'on ne touche pas certains massifs ou certaines forêts. Alors effectivement, ça peut poser des questions économiques. Alors il faut faire la part des choses entre le besoin de récolter, entre, je dirais, l'équilibre forestier et puis l'équilibre des besoins humains en bois, en produits forestiers, etc. Je pense que pour accéder au foncier, il faudrait effectivement réveiller un petit peu les multipropriétaires, petits propriétaires qui parfois ignorent qu'ils sont propriétaires d'une petite parcelle forestière, et inviter tous ces petits propriétaires à peut-être offrir leur parcelle ou leur forêt ou dans une structure à bon escient qui s'engagerait véritablement à appliquer une foresterie plus douce, plus douce, plus humaine, plus locale, plus lente aussi, parce que tout s'est accéléré et on demande à la forêt d'aller plus vite, de pousser plus vite, mais je pense qu'on aurait besoin de ralentir pour correspondre mieux à la forêt. Donc le tout, c'est pas de ne pas répondre aux besoins de la filière et de l'industrie forestière, c'est de partager quand même les objectifs et de faire la part des choses, et qu'on ne peut pas mettre toute la forêt française en rang de bataille pour fournir des bataillons, des camions et des camions de bois qui d'ailleurs ne finissent pas dans les scieries françaises, qui partent à l'étranger. Donc il y a une très très grande réflexion, une très grande prise de conscience à faire sur la forêt, et peut-être qu'avec ces dizaines de milliers de propriétaires forestiers qui ignorent qu'ils sont propriétaires, je pense qu'il y a un effort pour les appeler, pour les réveiller, pour leur dire mais il y a peut-être quelque chose à faire. Après il faut trouver le moyen d'avoir une action commune sur le commun. Justement, ce commun qui est pour le moment possédé par des dizaines de milliers de personnes, qui n'a pas forcément le besoin d'être réuni dans une propriété unique, mais par contre dans l'action commune, certainement.
On parle maintenant de plus en plus, dans certains cercles en tout cas, des services rendus par la forêt. Mais jusqu'à quel point ces services sont quelque part reconnus et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est imaginable de le faire ?
Alors aujourd'hui, on voit apparaître effectivement dans les textes juridiques des notions, des concepts pour commencer à prendre en considération les services rendus par la forêt, et notamment ceux qui sont dits non marchands ou non monnayables, de manière à ce que l'on puisse justement tenir compte de tout ce que la forêt apporte et qui ne se résume pas à des grumes de bois ou des produits forestiers récoltés. Donc il y a encore du progrès à faire pour aller plus loin et pour ne pas rester au stade de concept, mais de véritablement s'approprier cette conscience que la forêt n'est pas que du bois à récolter et que c'est un monde vivant qui est vital pour l'humain et tout ce que ça nous apporte. Je pense que les gens ont perdu le lien avec ce milieu naturel, sauf lorsqu'on s'y promène et qu'on a du plaisir effectivement à se promener en forêt, parce que c'est encore un espace plus ou moins de liberté, un espace de respiration. Cette notion de service rendu, elle doit pas rester dans une sphère de spécialiste et de calcul. Quelque part, non, elle doit être prise en considération par l'ensemble de la société civile, l'ensemble de la population, pour se rendre compte que c'est un milieu dont on a extrêmement besoin, qui est délimité, qui peut être fragile. D'accord, il peut se renouveler, mais à condition de ne pas faire n'importe quoi non plus. Et l'ensemble de ces services, moi personnellement, je ne sais pas en dresser la liste. Je pense qu'elle est vaste. Elle est plus vaste que ce qu'on peut penser.
Mais moi, je ne suis pas du tout expert dans le domaine, mais en observant comme ça, et moi, je suis un peu impliqué dans des luttes contre des méga-centrales à biomasse et enfin toutes ces questions-là. Donc, j'ai quand même l'impression que, même si ce n'est pas le discours qu'on voit officiellement dans la nouvelle loi, l'AF, sur la forêt et l'agriculture, on peut entendre beaucoup de discours sur la multifonctionnalité, sur l'hiérarchie des usages du bois. Enfin, toutes ces questions-là, mine de rien, suite au discours de Nicolas Sarkozy à Ouromat, un peu sur le trésor qui dort et le fait qu'il faudrait augmenter l'exploitation des forêts, il faudrait vraiment sortir plus de bois, c'est que finalement, on est en train de soutenir ce que moi, je l'appellerais le bas de gamme. C'est-à-dire qu'il y a des fonds considérables. Le seul central de Gardanne, par exemple, c'est 1,5 milliard d'euros sur 20 ans. 70 millions d'euros sur une seule année. Et par contre, par exemple, une petite scierie locale ou un tissu local n'a absolument aucun soutien, à ma connaissance. Où est-ce qu'on oriente actuellement les lois et puis les procédures, enfin tout le reste, quoi, le droit, quelle forêt finalement, quelle gestion ça favorise ?
Ce qui se passe, c'est que on attribue à la forêt sa capacité à se renouveler, donc comme une productrice de produits forestiers et de biomasse, donc qui est potentiellement récupérable, en sachant que justement elle va se renouveler. La problématique vient de ce que la politique et les choix qui ont été faits vont vers des installations, des usines ou des centrales disproportionnées. Elles ne sont pas proportionnées au territoire. C'est-à-dire que dans les besoins, l'idée de ceux qui ont soutenu cette politique pour augmenter les productions vertes, production d'énergie à base de biomasse, etc., il fallait arriver aux objectifs chiffrés de passer dans les énergies renouvelables assez vite pour atteindre les objectifs. Et pour atteindre les objectifs, le choix a été fait de choisir des grosses structures, des grosses installations, parce que un petit nombre de grosses installations permet d'arriver très vite aux gros chiffres. Et en fait, le développement durable, il n'est pas là. Le développement durable, il aurait été dans une prise de conscience que c'est plutôt la multitude de petites unités insérées localement à tout point de vue, avec une économie locale. Là, on répond véritablement au développement durable. Mais les fonds publics, le financement, le système des appels d'offres et des appels à projets monumentaux, pharaoniques, avec exclus l'accès au financement public pour les plus petits projets. Alors, ceux-ci ne sont pas complètement non aidés, mais pas suffisamment. Donc, effectivement, les gros moyens ont été mis sur des grosses structures. À mon avis, c'est une grossière erreur par rapport à cet oubli de ce besoin de vivre à notre échelle. Avec ce genre d'usine, on ne vit pas à notre échelle et on ne vit pas non plus à l'échelle de la forêt.
Fort de son expérience à Terre de Liens, Philippe Cassiébu compare la réalité agricole et forestière du point de vue du foncier.
Effectivement, l'autre différence, c'est que dans une ferme, le citoyen lambda, il peut aller se promener sur les chemins, mais il ne va pas dans les champs, il ne va pas dans les prairies. Alors que dans la forêt, le multi-usage est encore plus évident. Mais c'est un inconvénient et un avantage à la fois. C'est ça qu'il va falloir voir. Certes, le code forestier existe, mais il est inclus dans le code rural. Il n'y a pas de ministère de la forêt, il est inclus dans le ministère de l'Agriculture. Et on va avoir beaucoup plus de mal à trouver des opportunités de modification des lois pour la forêt que pour l'agriculture. Ça va être une difficulté.
Pourquoi ?
Parce que la gestion des les règles régissant la gestion des forêts changent peu souvent. Et donc les occasions d'intervenir dans un projet de loi vont être beaucoup plus rares que sur l'agriculture, où il y a tous les 10 ans à peu près une loi d'orientation, etc. Donc nous, Terre de Liens, on a modifié des choses dans la loi en s'appuyant sur des modifications préexistantes et surtout sur des lois existantes, sur des baux existants. Donc là, il y a un travail d'une ampleur plus grande à faire, parce qu'il faudra inventer un nouveau bail. Moi, je ne vois pas comment, in fine, on pourra y couper. Donc il faut peut-être plus de temps. Et il y aura des occasions de modification de la loi moins fréquentes. Il ne faudra pas les rater.
Est-ce que ce n'est pas aussi parce que, finalement, il y a un véritable débat sociétal sur l'agriculture et l'alimentation depuis 20-30 ans. Je veux dire, il y a pas que la FNSOA, il y a la Confédération Paysanne, il y a des Biocop, il y a les AMAP. Enfin, c'est devenu un véritable questionnement pour beaucoup, beaucoup de monde, avec des on pourrait dire presque des contre-pouvoirs. Or, dans la forêt, ça n'existe quasi pas. Des choses comme le RAF est tout jeune. Il y a une profession qui est un peu tout puissante, qui n'a pas grand-chose en face, qui est assez fermée, et qu'il y a, au fond, même si les forêts, c'est quelque chose qui est très, très important pour les gens, ils sont touchés par les questions de la forêt, mais ils savent très peu sur comment c'est géré, qu'est-ce qui se passe, les risques, enfin, tout ça. Donc, en fait, ce débat manque, et donc c'est peu présent, quoi.
Oui, tu as bien résumé, hein. Il y a 35 ans, les bio n'existaient pas, les AMAP n'existaient pas, les biocoop n'existaient pas, les associations pour l'environnement existaient à peine. Et donc, l'agriculture a pris 30 ans d'avance par rapport aux forêts, mais pour une raison simple, c'est que le bois, ça ne se mange pas. Donc, le lien au bois, il n'est pas immédiat. Donc, il y a un gros travail à faire pour sensibiliser les gens au fait que la gestion des forêts les concerne, même s'ils ne mangent pas le bois. Et à ce moment-là, la diversité des usages des forêts devient un avantage, parce que les réseaux qu'on peut toucher sont plus larges. Et donc, on peut s'attendre, si le travail est bien fait, et alors les erreurs de nos gouvernants et de l'industrie sont telles qu'ils vont nous aider, si le travail est bien fait de sensibilisation, on peut avoir une mobilisation très large, peut-être plus large que pour l'agriculture, pour défendre nos forêts. Mais ce travail, il est devant nous.
Oui, le problème, c'est que les erreurs de nos gouvernants, si on veut l'appeler comme ça, les décideurs et puis les industries, etc., sont tellement radicales parfois. Enfin, c'est tellement grave que finalement, on a ce temps long, mais en même temps, on a un tour très court parce qu'on a l'impression qu'il faut réagir vite.
Exactement, c'est le paradoxe du rafle, hein, c'est d'agir vite sur du long terme. Et oui, je suis d'accord. C'est pour ça que ça m'intéresse, cette rencontre et cette dynamique du rafle, parce que finalement, elle est le front d'innovation qui est le plus avancé dans le monde forestier. Il faut aussi se faire confiance. Et après, on fait ce qu'on a à faire et l'avenir ne nous appartient pas. Mais oui, on peut aussi échouer parce qu'on arriverait trop tard. Moi, je ne crois pas vraiment à ce scénario-là.
C'était Foncièrement forestier, première partie, la 19e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine, en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Dans la deuxième partie, nous présenterons plusieurs projets de propriété et de gestion collective de forêts. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de cette série ainsi que beaucoup d'autres informations sur le site du RAF www.alternativeforestiere au pluriel et dans un mot .org.